Et vraiment très content que le Seigneur nous donne la grâce de partager ses paroles avec vous. Donc, étant donné que c'est la première fois que je me présente, donc je m'appelle Pierre Laforge. Je suis un médecin, un chirurgien orthopédiste et traumatologue. Je suis marié, ma femme est là avec trois enfants, femme et bac. Donc voilà, c'est un petit résumé. Donc le sujet aujourd'hui, c'est très profond à mon avis, je crois aussi. On va parler, j'ai à cœur de parler de la foi, et précisément la foi chrétienne. Comme la sœur a précisé, que tout le monde, ils croient de quelque chose, précis. Maintenant, on a beaucoup de choses à la mode. On croit de l'univers, on croit de la nature, on croit de nous-mêmes. Quand je parle avec mes patients, parfois je pose la question, est-ce que vous avez de la foi? Donc la réponse toujours, oui, je crois à moi-même. Donc je dis, pauvre, si tu crois à toi-même, pourquoi tu n'arrives pas à te sauver? Pourquoi t'es chez moi pour chercher quelque chose, une guérison, des soins, etc. Donc nous, l'univers de croire des créatures à la place qui les a créées, donc ça c'est manque de sagesse. Donc il y a une définition de la foi, je l'ai trouvée dans l'encyclopédie Wikipédia. Donc la foi est un mot du vieux français, donc, dérivé du latin fides, je pense que ça prononce comme ça, qui signifie confiance et engagement. Donc c'est la définition de la foi. Donc croire veut dire penser que, mais sans preuve. Penser une chose avec des preuves, c'est savoir, c'est de la science. Donc c'est ça la définition de la foi. Au niveau linguistique. Mais quelle est la définition de la foi chrétienne? Donc on trouve cette définition assez claire dans Romains 10, 17, donc, qui nous parlait que ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi, ce n'est pas mystique, ce n'est pas de magie. La foi doit être basée sur la parole. Et dans l'Hébreu 11, 1, il donne aussi une autre définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est une assurance, c'est une ferme assurance. Moi, peut-être pour comparer la foi d'un moteur de la voiture, par exemple. C'est l'image qui vient à mon esprit. Donc la voiture, même la plus belle, la plus chère, comme la Lamborghini, donc, qui est super bien équipée, très belle, mais s'il n'y a pas de moteur, qu'est-ce qu'il peut faire cette voiture? Rien. Il ne nous amène nulle part. Il est inutile. Et nous aussi, sans la foi, on ne peut aller nulle part. On ne peut pas profiter des promesses, ni entrer dans la vie sainte. La foi doit être aussi comparée d'un enfant, de la simplicité. Donc, c'est la confiance. Comme dit la définition, donc j'ai confiance à Dieu. Et quand moi, mon enfant, ou l'enfant, bon, quelqu'un, un père qui jette son enfant en jouant avec lui, l'enfant reste sur rien parce qu'il a confiance que son père va de nouveau rattraper, ne laisse pas tomber. Donc c'est la foi simple et Jésus nous a invités à avoir ce type de foi, la foi d'un enfant. C'est la confiance, c'est ce qu'il voulait dire Jésus. C'est pas d'être un enfant, c'est-à-dire de revenir en arrière et perdre la maturité, mais c'est être simple, avoir confiance totale. L'autre question qu'on peut poser, qui a de la foi? Et comment je peux l'avoir? Donc, une réponse étonnante dans la Bible, que tout le monde, ils ont de la foi. Que la foi, c'est un don. C'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est pas quelque chose qu'on acquérir, on peut dire. Mais c'est quelque chose qu'on possède déjà. Comme on a des muscles, des yeux, etc., on a de la foi. Donc le Seigneur est juste à donner à tout le monde cette capacité. Mais qui fait la différence entre les hommes? C'est comme les sportifs. Donc il y a des gens qui ont peu de muscles, comme moi par exemple, qui ne pratiquent pas beaucoup de sport. Et il y a des hommes qui sont bien musclés parce qu'ils pratiquent. Et la foi, c'est pareil. Donc on a la foi comme capacité. Mais pour augmenter, pour avoir développé cette foi, il faut bien sûr faire les exercices de la foi, de pratiquer la foi. Et moi, ça, ce qui j'ai dans l'esprit, la parole de disciples dans la Bible, qu'ils ont dit à Jésus, augmente notre foi. Et sa réponse était étonnante. On va lire ça après. Que si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous demandez à cette montagne de vous ordonner, hein, pas de, vous demandez pas, vous ordonnez la montagne de se déplacer et se jeter dans la douche. Donc la foi, c'est pas quelque chose qu'on doit l'acquérir, il faut pratiquer, c'est ce qu'il voulait dire Jésus, il faut utiliser la foi. Donc en Romains 12, 3, et il parlait que le Seigneur a donné chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a départie. Donc chacun a été donné une mesure de la foi. On a un exemple de la foi dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est la mère de Samuel. Donc cet exemple m'a toujours inspiré, admirer hein, sa foi incroyable et qui a donné vraiment l'exemple qu'on doit avoir pour que notre foi se manifeste, qui donne du fruit. Donc on va lire, malgré c'est un peu long, mais on va lire parce qu'il est très riche, en Samuel 1, de 12 à 19. Donc on sait que Anne, la mère de Samuel, donc selon les coutumes des Juifs, il visitait le temple. Et cette fille, cette dame, il a dans son cœur beaucoup un chagrin, une tristesse, parce qu'il était stérile. Et chez les Juifs, une femme stérile, c'est comme une malédiction, comme privée de l'héritage. Donc c'est mal vu. Et en plus, c'est toujours la faute des femmes à l'époque. Donc on ne sait pas, on savait pas à l'époque que l'homme partage aussi ce type de problème, on peut dire. Donc c'était toujours la femme qui est stérile. On n'entend jamais un homme stérile. Hein. Bon, maintenant c'est récent. Donc là, cette femme, il avait ce sujet de torture, de tristesse dans son cœur. Donc il montait au temple, et il priait que le Seigneur lui donne un enfant. Donc on va voir la méthode de façon qu'il a prié et comment s'est manifesté sa foi. Donc, comme il restait longtemps en prière, c'est ce qu'il dit dans la Bible, devant l'Éternel.
Excuse-moi, tu peux répéter la référence parce qu'on n'a pas bien compris.
C'est 1 Samuel 1, de 12 à 19.
1 Samuel 1.
De 12 à 19.
1 Samuel 1, 12, 19. Donc, comme il restait longtemps en prière devant l'Éternel, Eli, c'est le grand prêtre. Et le grand prêtre dans l'Ancien Testament, frère et sœur, représente Jésus lui-même. Donc Jésus était à côté. il y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Il ne faisait que remuer ses lèvres. Donc ses lèvres bougent, mais il n'y a pas de parole qui sort. Mais on n'entendait point sa voix. Il y pensa qu'il était ivre, parce qu'il voyait une femme qui fait des choses bizarres, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Donc il l'a reproché. Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai vu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Donc Élie, quand il a vu qu'il a bien sa tête, cette femme, et que vraiment c'était des prières profondes, il a repris la parole et dit, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Et ce qui est magnifique, c'est la phrase de centre, ce que je voulais insister. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Donc c'est ça le... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Son visage ne fut plus le même. Tout simplement, il a cru. Donc il est venu soudainement, même son mari a regardé après ce que vous lisez. Après le reste, a fait attention que sa femme est soudainement joyeuse. Soudainement, elle mangeait, elle buvait, comme il a vraiment cru, comme c'est fait, comme le Seigneur il a donné. Donc c'est ça la foi. La foi, comme on a dit tout à l'heure, de cette assurance ferme. Que c'est ce qu'on demande est réalisé selon la volonté du Seigneur. Et Dieu veut de vivre comme c'est fait. Donc si je prie et après je doute, donc comme dit Jacques, je pense, l'apôtre Jacques, je suis comme emporté par les vagues. Ça ne m'amène pas. Quand je prie, il faut croire que c'est fait, que le Seigneur a répondu, parce que c'est sa promesse. C'est ça la confiance, que le Seigneur ne donne pas une promesse, parce que ma foi est basée sur la parole, c'est ce qu'on a dit aussi au début. Donc quand j'annonce la parole, il y a des promesses, donc le Seigneur certainement fidèle pour réaliser, sinon pourquoi il me donne ces promesses? Donc la foi, c'est la clé pour l'exaucement de nos prières. Donc, à Matthieu 21, 22, Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » C'est pas magnifique, c'est ce qu'on entend. Il précise pas, « Vous demandez ça et ça. » Tout ce que vous demanderez. Il n'y a pas de limite. On sait bien, on ne peut pas demander des choses si on a l'Esprit de Dieu contre sa volonté. Donc tout ce que vous demanderez, je ne demande pas que mon ennemi, par exemple, soit malade. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qu'on demande selon la volonté de Dieu, donc sera exaucé. Il n'y aura pas de limite. Il n'y a pas des choses impossibles. Quand quelqu'un il a une maladie grave. Donc, dans ses yeux, c'est impossible. Les médecins vont dire, c'est impossible. Tu as quelques jours à vivre. Mais est-ce que c'est impossible pour Dieu? Est-ce que je ne peux pas donner confiance à Dieu et lui dire, Seigneur, c'est impossible dans les yeux des hommes, mais est-ce que vraiment c'est impossible pour toi? Toi qui as créé tout cet univers, qui a un pouvoir qu'on ne peut pas même imaginer. Est-ce que tu ne peux pas me guérir? Bien sûr. Mais la question, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois vraiment? C'est ce que Jésus a dit pour les gens avant. Est-ce que tu crois que je peux faire? si vous regardez la Bible sur plusieurs versets, quand quelqu'un demande à Jésus de guérir, il pose la question, est-ce que tu crois que je suis capable de faire? Et quand cette personne est guérie, il dit, ta foi est sauvée. Il ne dit pas que c'est moi, il dit c'est ta foi. Donc la foi, c'est la clé pour l'exaucement de nos prières. En Jacques aussi 5:15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et le Seigneur aussi dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et vous obéirez. Matthieu 21:21 aussi dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, donc quand le figuier est séché par la parole du Seigneur, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donc il n'y a pas de limite. Le Seigneur, bien sûr, on ne va pas demander à des montagnes de se déplacer, mais le Seigneur voulait dire qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a rien d'impossible. Donc il ne faut pas dire quand on prie que c'est impossible. Et que Dieu, peut-être c'est trop, je demande trop. Frères et sœurs, tout ce qu'on demande, les plus grands qu'on peut imaginer, c'est trop petit pour Dieu. Il ne faut pas penser qu'il y a quelque chose de grand, parce que c'est Dieu. Nous sommes très très limités. Donc, si vous avez une fourmi, par exemple, en face de petits trucs, pour cette fourmi, c'est énorme, l'obstacle. Mais quand vous regardez vous poussez par votre pied, c'est fini. Donc la fourmi continue son chemin. Donc vous voyez, c'est relatif, les choses grandes. Il n'y a pas des choses grandes et des choses petites. C'est relatif. Ce qui est très grand pour moi, c'est très petit ou trop petit dans les yeux de Dieu. Ou par exemple, si même le relatif entre nous, selon ce qu'on a comme richesse, c'est ce qui est impossible d'acheter la voiture de luxe chez moi. Pour moi, c'est très... Moi, je suis d'origine syrienne, donc je soignais des gens de Golfe qui avaient une richesse jusqu'à présent. Ils étaient riches de façon un peu exagérée. Donc, les cadeaux pour leurs enfants, c'était des voitures, de Ferrari, Lamborghini, etc. Ils donnent des cadeaux d'anniversaire pour un enfant, je parle d'adolescent. Donc, c'est impossible pour nous. Mais c'était très simple pour eux, vu la richesse. Donc, la foi, c'est notre bouclier. Donc on a l'arme, c'est ce qui, si vous regardez la Bible, décrit les armes qu'on doit s'équiper. Donc la foi fait partie. Mais la foi, son rôle, c'est notre bouclier. Il nous protège en réalité. Dans Éphésiens 6:16, prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc c'est notre bouclier. Le malin, le diable, il ne laisse pas, il ne lâche pas, surtout les chrétiens. Donc lui, il ne dort pas. Donc il est tout le temps autour, rôde autour de nous. Et comment on se défend? C'est par la foi. Bouclier de la foi. La foi doit être notre façon de vivre. Il faut vivre par la foi. 2 Corinthiens 5:7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il ne faut pas croire, il ne faut pas vivre par les sentiments. Il ne faut pas vivre par ce que je touche, ça c'est un piège. Parce que parfois, je passe, quand je prie, mes sentiments me trompent. Quand je prie pour une guérison, peut-être d'une douleur quelconque, je peux avoir plus de douleur. Est-ce que je crois à la parole ou je crois à mes sentiments? C'est ça la question. Il ne faut pas croire les sentiments. Ça trompe. C'est un piège. Et les sentiments, influencés aussi par l'ennemi, mes sentiments. Donc les idées, les sentiments, parfois ça vient de diable ou de l'ennemi. Donc si je laisse mes sentiments me contrôler, certainement ma foi est très faible. La foi, frères et sœurs, nous donne la victoire. On est victorieux par la foi. Donc 1 Jean 5,4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc notre foi nous donne la victoire. C'est le centre, c'est pas le centre de notre vie, c'est notre vie. On doit vivre par la foi. Et les choses les plus importantes de la foi, que la foi, il nous rend juste. Pour moi, tout ce que j'avais dit déjà, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel de notre vie, c'est d'arriver à la vie éternelle, de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que si on vit de bon état ou un peu malade, un peu handicapé, ça ne change rien. La vie est courte pour l'un et l'autre. Donc la vie est très courte. Ce qui est important, c'est notre vie éternelle. Donc c'est ça l'essentiel. Et là, la foi, de nouveau, c'est la clé pour entrer dans cette vie éternelle ou la nouvelle ville de Jérusalem. On va voir ça aussi basé sur la Bible. C'est pourquoi la foi est très importante et on ne peut pas être sauvé sans la foi en tout cas. Donc, Jésus a enseigné très fréquemment en parabole. Et l'un de ses sujets favoris était comment entrer dans le royaume éternel de son Père. C'est le sujet vraiment central de prédication de Jésus. Comment on fait? Comment on rentre dans le royaume? Donc, il y a une parabole qui était dite par le Seigneur et très profonde, qui contient des vérités très profondes. Il est un peu négligé cette parabole. Moi, je veux citer. Donc, ça se trouve dans Matthieu 21, de 28 à 32. Qui parlait d'un homme qui a deux fils. Donc il s'adressa au premier et il lui demanda, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne, pour le premier. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite il se repentit et il alla. Donc il s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il n'alla pas. Donc après, le Seigneur demande qui a fait la volonté vraiment de son Père. Bon, ils ont dit le premier, ce qui est évident. Donc Jésus leur dit, je veux dire en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu et vous dans la voie de la justice. Est venu à vous dans la voie de justice. Et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Donc Jésus donne, on sait pourquoi il a donné après cette parabole, c'est pour dire que ce n'est pas par mes propres forces j'obtiens le salut ou je fais la volonté de mon Père. Je ne peux pas faire par mes propres forces. Et la preuve que le deuxième fils a dit « je veux », donc ça donnait sa volonté, mais il n'a pas pu faire. Et le premier a dit non, mais après il a de la foi. Donc il s'est repenti et se mis sa volonté à son Père. Donc il a pu faire, c'est ce que son Père lui avait demandé. Pour ça, Jésus donne la conclusion à la fin. Il parlait de Jean donc, qui est venu et les publicains, ça veut dire les gens de religieux n'ont pas cru en lui. Donc c'est eux qui disent oui, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais les prostituées, donc les pécheurs, on va préciser, les pécheurs, ils ont cru. Donc c'est eux qui ont dit non, non, dans leur comportement, leur vie, mais ils ont fait la volonté de leur Père céleste. Et ils sont rentrés dans le royaume de Dieu, contrairement aux autres. Donc l'obéissance se compte. La désobéissance est un péché. En fait, les Écritures disent clairement, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est en Jean 3 et 4. Donc l'obéissance, c'est primordial pour avoir la foi, pour que la foi donne le fruit. Donc Jésus a répété toujours l'importance de l'obéissance à tous les commandements de Dieu, en disant à Jean, dans l'Apocalypse 22, 14, « Heureux ceux qui observent ces commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Donc l'obéissance, ça ne veut pas dire que Jésus nous a libérés de la loi. C'est le contraire. Jésus nous a donné la capacité de pratiquer, d'observer les lois. À la place que les lois soient, c'était noté sur des pierres, il les a plantées dans notre cœur. Donc il les a écrites dans notre cœur. Donc on est capable, nous a donné la capacité d'obéir. Donc l'obéissance à la loi divine donne droit à l'arbre de vie et permet d'entrer dans la ville sainte. Donc là, il y a, comme maintenant tout le monde peut-être pose la question, il y a un obstacle, il y a un contradictoire, parce que la Bible dit il n'y en a point de juste, personne. Donc là, si vous regardez Romains 3, 10 à 12, il n'y a personne qui a de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu, tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Donc il n'y a personne qui pratique les lois, qui obéissent. Même en Romains 3, 23, Paul a déclaré sans équivoque, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a personne qui est capable vraiment de pratiquer ou de mettre en œuvre les lois du Seigneur, ou d'être obéissant, en vérité, en résumé. Donc si personne n'est capable, qui sera sauvé? C'est la question. Donc la réponse, ça vient de la Bible aussi. Si on regarde 1 Corinthiens 15, 57, la réponse donc, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc c'est Jésus qui nous a donné cette victoire. C'est quoi cette victoire? C'est pas qu'on soit sans loi, que de mépriser les lois du Seigneur, c'est le contraire. La victoire, c'est de pouvoir obéir et pratiquer les lois sans même réfléchir. Ça devient notre nature. Donc on ne fait pas des efforts. On va parler de ça, que beaucoup qui font des efforts par leur propre force, ils n'arrivent jamais. Il y a des gens qui voulaient, par exemple, arrêter de fumer. On n'arrive jamais par notre propre force. Qui veulent arrêter de pornographie, qui devient maintenant le sujet, malheureusement, terrible, le péché qui domine, qui est le plus répandu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à faire. Pourquoi? Parce qu'on compte sur notre propre force. Et ça, c'est le piège. On ne peut pas. Donc, mais Jésus nous donne la force. On va regarder aussi dans les Écritures. Donc on est déclaré juste par la foi, justifié. Vous savez ce que ça veut dire justifié? Ça veut dire dans les yeux de Dieu, je suis saint. Les saints, ce ne sont pas les gens qui sont morts, hein, qu'on déclare par les hommes, les saints. Les saints, c'est les chrétiens. Tous chrétiens sont déclarés justes, donc sont des saints. On regarde qu'en Romains 6, 23, dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le salut, c'est un don. Ce n'est pas de mérite. Même l'obéissance, c'est un don. Donc les pécheurs ne sont pas incapables de respecter la loi. C'est impossible. C'est un fait. C'est pourquoi Dieu a donné l'homme Jésus, qui a parfaitement respecté la loi divine. Tout chrétien sait que le sang de Christ couvre ses péchés. Les mérites du sang du Sauveur sont crédités aux croyants et se tiennent devant Dieu comme s'ils n'avaient jamais péché. Donc le Seigneur nous a crédités. Tout ce qui a fait Jésus, l'homme Jésus, c'est nous qui a fait. Il nous a donné le fruit de ses œuvres. Donc on est juste crédité par son œuvre et par l'obéissance. Donc, Jésus, il a obéi parfaitement les lois du Seigneur. Il n'a jamais commis un péché. Le seul, en tout cas, qui est le seul homme qui a fait ça dans l'histoire de l'humanité, c'est Jésus, qui a réussi à obéir sans péché son Père céleste. Il nous a donné donc cette capacité. Il nous a crédité par son œuvre sur la croix. Donc l'obéissance de Jésus est aussi créditée aux croyants, comme le pardon est un don de la grâce et accepté par la foi. Donc comment je peux avoir ce don d'obéissance et le pardon, c'est par la foi. Je crois de l'œuvre de Jésus. Quand je crois à ce qu'a fait Jésus, donc ça m'appartient. Donc le Seigneur, le Dieu, ne voit pas mes œuvres, il voit l'œuvre de Jésus. Parce que par la foi, je suis couvert par le sang de Christ. Donc le Christ me couvre. Après, tout ce que j'ai fait, tous les péchés, tout ce qui est mauvais, donc le Seigneur, le Père, ne voit plus ça, il voit l'œuvre de son Fils, parfait de son Fils. Donc je suis juste devant Dieu par la foi. La foi de l'œuvre, bien sûr, de Jésus. Donc il y a dans Romains 3, 21-26, cette description magnifique de ce qu'on vient de dire que Jésus a fait. Cette œuvre pour notre purification. Donc tous ceux qui entreront dans la nouvelle Jérusalem marchent dans cette vie sur les traces de Jésus. Et ils sont capables d'obéir la loi divine. Donc l'obéissance, c'est le résultat, ce n'est pas la cause. Il ne faut pas penser, comme j'ai dit tout à l'heure, que si on obéit, on va rentrer dans l'obéissance, c'est un résultat de notre foi. Ce n'est pas la cause de notre salut. Elle est le fruit plutôt que la racine de salut. Donc on aura l'obéissance, c'est le fruit de la foi. Donc on ne peut pas s'accrocher obstinément au péché et d'être sauvé. C'est incroyable, c'est impossible. Il n'est pas non plus possible dans notre nature déchue d'observer la loi du Seigneur, la loi divine. Donc le pardon et l'obéissance sont des dons offerts. On répète là de tous ceux qui les acceptent par la foi. Frères et sœurs, n'essayez pas par votre propre force de faire, on peut dire, l'obéissance ou de pratiquer les lois du Seigneur. Ou de faire n'importe quel geste ou pour changer des habitudes, pour n'importe quelle chose qu'on demande, on ne peut pas faire par notre propre force. Je ne sais pas si je demande quelque chose, je ne sais pas parce que je concentre mieux, parce que je fais beaucoup d'efforts, parce que je donne de l'argent, parce que je pratique ça et ça, que j'obtiens ce que je demande. On ne peut rien obtenir si on n'a pas de la foi. La foi, ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie. Si vous vous souvenez de l'histoire des prêtres de Baal avec Lili, ils ont fait ce qu'ils font beaucoup maintenant, des soi-disant croyants, des gens religieux, ils ont fait des efforts. Ils se sont flagellés, ils criaient plus fort. Ils pensaient que s'ils crient un peu plus fort, que Dieu va se réveiller, va répondre. Si on fait saigner, donc ça peut attirer l'attention de Dieu. À la fin, ils n'ont plus de force même de parler, parce qu'ils ont trop crié des heures et des heures. Et rien qui s'est produit. Mais il est de simples paroles de foi, le feu de Dieu est descendu. Il n'a pas fait des efforts. Même des prières prolongées. Tout simplement, il a demandé selon la volonté du Seigneur. C'est ce que le Seigneur a promis, et le Seigneur a exaucé. Tout simple. Et c'est ça la foi. Donc on va prier que le Seigneur nous donne cette foi simple et nous donne la sagesse d'enraciner dans ses paroles, de pratiquer ses paroles par la foi pour qu'on puisse rentrer dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire le royaume de Dieu. C'est la clé. La clé qui est pour tout le monde. Parce que Jésus n'est pas venu pour certains et certaines. Jésus pour tout le monde. C'est ça la grâce qu'on parle. Merci Seigneur pour cette grâce infinie. Merci parce que tu nous as tout donné, tu as tout préparé par avance. Tout ce qui te demande, Seigneur, d'avoir, c'est de te donner la confiance et d'avoir la foi. Sois glorifié, Père. Amen.